Bienvenue sur CityiNO, le podcast qui vous fait voyager dans les vies emblématiques du retail. Accrochez votre ceinture, décollage immédiat. Les experts de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance, Mathieu Joly et Elisabeth Menant, vous partagent leur carnet de voyage. Bonne écoute!
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de CityiNO, le podcast de l'échangeur qui vous amène visiter les magasins en Europe. Je m'appelle Mathieu Joly, je suis accompagné comme d'habitude par Elisabeth Menant.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Elisabeth. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir avec nous Alexandra Boisson de Business France.
Bonjour Mathieu, bonjour Elisabeth. Je suis Alexandra de Business France, en charge des sujets retail et e-commerce sur la zone Royaume-Uni et Irlande.
Et ouais, et bah Alexandra, tu viens de le dire, ce nouveau podcast CityiNO, il est consacré aujourd'hui aux magasins londoniens. Alors une première impression pour nous, c'est que finalement le commerce londonien, il a changé. Et la chose qui nous a le plus choqué lors de notre dernière visite, c'est finalement toutes ces devantures fermées. Je pense notamment à Covent Garden, où quand vous sortez du métro, vous avez une rue avec une vingtaine de magasins. Alors on sait que les loyers sont chers, mais historiquement, tous les magasins étaient complets. Et la dernière fois qu'on y allait, il y a à peine un mois, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? 3-4 devantures encore et toujours fermées.
Alors pour compléter, Mathieu, on peut dire que cette situation, quand même, elle n'est pas nouvelle en Grande-Bretagne, puisque globalement, c'est un des pays les plus touchés en Europe par la fermeture des magasins. En fait, si on regarde quelques chiffres, depuis 2016, la Grande-Bretagne enregistre un solde de fermeture qui est assez étal. Et bien sûr, elle a enregistré un pic très important au moment de la crise du Covid. À cette période, par exemple, elle a enregistré un solde négatif de 6000 fermetures au premier semestre 2020. Et puis, il y a peut-être un deuxième facteur. On sait aussi que l'impact du digital a peut-être plus de résonance en Grande-Bretagne que dans d'autres pays. Je vous rappelle juste un chiffre, que le e-commerce, c'est 40% du commerce de détail.
Alors Alexandra, est-ce que l'analyse d'Elisabeth est juste ?
Oui, tout à fait Mathieu, l'analyse est très juste. En effet, la pandémie a pas mal accéléré certaines pratiques dans un écosystème britannique qui était déjà friand de digitalisation. Pour vous donner une idée, en quelques chiffres, le Royaume-Uni, c'est le premier marché européen et le troisième mondial en termes de e-commerce. Le chiffre d'affaires du commerce au Royaume-Uni est estimé à 134 milliards d'euros. Et le chiffre qui marque un peu les esprits est que les dépenses au Royaume-Uni en ligne sont évaluées à en moyenne 2300 euros par an et par personne, ce qui en fait donc les premiers consommateurs européens sur ce canal. Si on revient à l'organisation de la distribution au Royaume-Uni de manière générale, le Royaume-Uni a un socle retail historique bien développé autour de grands noms comme Tesco, Sainsbury's qui sont les numéros 1 de la distribution alimentaire, mais également Boots, Argos, Next ou encore John Lewis & Partners qui sont dans la distribution spécialisée. Ce sont des enseignes qui sont réputées et qui positionnent le Royaume-Uni au deuxième rang européen de la distribution derrière l'Allemagne. Et quand la pandémie a frappé, ces distributeurs, ils avaient déjà une longueur d'avance sur leur online, ainsi qu'en matière de connaissance client, de communication sur les réseaux sociaux ou encore de fidélisation. Et donc, même si ces enseignes ont souffert de la crise, comme tu l'as dit, Elisabeth, elles ont quand même montré une capacité de réaction bien supérieure à celle qui a été observée dans d'autres pays européens.
Alors, Alexandra va continuer sur la connaissance du marché. On va s'intéresser plus exactement aux consommateurs. Donc, avec cette crise sanitaire, puis la crise de l'inflation, est-ce que tu pourrais un petit peu nous décrire l'état d'esprit du consommateur anglais? Est-ce que notamment il y a une grande tendance qui se dégage? On sait par exemple, avec Mathieu, qu'on avait souligné lors de notre conférence Innover Service Centric, que le low cost avait des beaux jours devant lui, avec notamment un acteur comme Adi, qui s'était placé numéro 4 et qui devançait pour la première fois un acteur comme Morrison.
Alors, en ce qui concerne l'état d'esprit, les Britanniques sont inquiets. On observe en ce moment une réelle baisse du pouvoir d'achat, notamment le dernier rapport d'Asda, qui est acteur numéro 3 de la distribution alimentaire, a révélé que le revenu disponible des ménages a baissé dans toutes les régions du Royaume-Uni sur les derniers mois de 2022. Les chiffres de ce rapport nous montrent que le montant que les ménages disposent après avoir payé tout ce qui est essentiel pour eux, donc les factures, les impôts, etc., a diminué de 11% pour atteindre une moyenne de 209 pounds par semaine, à l'inverse de 236 pounds au cours de la même période en 2021. Donc évidemment, c'est une victoire pour le discount. Lidl et Aldi ont gagné des parts de marché au prix des supermarchés traditionnels, comme tu l'as mentionné, Elisabeth. Et Aldi est maintenant le discounter à la croissance la plus rapide, avec des ventes en hausse de 24%. Et Lidl, lui, a enregistré une hausse de 22% en 2022. Ces deux acteurs, ils ont ouvert de nombreux magasins sur les derniers mois au Royaume-Uni et ils prévoient d'en ouvrir de nombreux en 2023. Et Lidl a affirmé que 60% des ménages britanniques font désormais leurs courses dans leurs magasins. Donc, on constate bien que les consommateurs sont à la recherche d'économies. On observe également une baisse des ventes de e-commerce, notamment fin 2022, un retour progressif en magasin et une tendance pour le click and collect. Donc, en effet, les ventes en ligne au Royaume-Uni ont connu une baisse record de 18,5% sur l'année 2022 et notamment une baisse de 12% au mois de décembre. C'est la première fois que les ventes de e-commerce enregistrent une telle baisse sur une année entière, mais c'est entre guillemets normal, compte tenu du boom des ventes en ligne enregistrées pendant la pandémie, donc c'est difficile de rattraper le niveau. Le nombre d'acheteurs optant pour le click and collect a, lui, augmenté, passant de 40% à 50% en décembre 2022. Les acheteurs souhaitant éviter les frais de livraison. Mais c'est également dû à un mouvement de grève de Royal Mail qui a eu lieu au mois de décembre et qui a lourdement perturbé les livraisons pour la période des fêtes. En ce qui concerne le physique, même si le trafic en magasin reste inférieur de 14,2% par rapport à 2019, on observe tout de même un retour progressif en magasin. Pour vous donner quelques exemples, le magasin Selfridges a observé une augmentation de son chiffre d'affaires de 28% en 2022 par rapport à 2021. Marks & Spencer a prévu d'ouvrir 20 magasins en 2023. Et Sephora va également faire un retour sur le marché britannique en ouvrant un magasin flagship dans le centre commercial de Westfield à Londres en mars 2023.
Merci Alexandra. En fait, on a beaucoup parlé en introduction des fermetures, mais on voit bien, les ouvertures sont là. Probablement la prochaine grosse ouverture londonienne, ça sera l'arrivée d'IKEA sur Oxford Street en automne, à la place de l'emblématique magasin de mode Topshop. Alors Alexandra, Topshop, c'était une enseigne de mode. Ça me permet juste de te poser la question sur l'évolution finalement des comportements d'achat des Britanniques. Et notamment, est-ce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ont recours à la seconde main?
En effet, Mathieu, nos habitudes d'achat ont complètement changé parce qu'il y a une vraie prise de conscience de notre impact environnemental et c'est pourquoi le marché de l'occasion est en plein boom au Royaume-Uni. De nombreuses personnes se tournent vers les magasins d'occasion, non seulement par nécessité financière, mais aussi par choix. Pour vous donner un chiffre, 25% des consommateurs britanniques ont acheté des articles de seconde main en 2021 et ont déclaré désormais privilégier réparer leurs articles avant d'en acheter de nouveaux. C'est donc une occasion rêvée pour les retailers de tirer parti de cette tendance croissante tout en améliorant leur impact environnemental. Par exemple, le retailer Asda, lui, a lancé sa propre gamme de vêtements de seconde main dans certains de ses magasins. On voit émerger de nombreuses plateformes de location de vêtements comme Buy Rotation, High Street, qui a lancé notamment un partenariat avec Marks & Spencer, ou encore Selfridges, qui a lancé son propre service de location pour les vêtements pour enfants. On note également des initiatives autour du recyclage, en plus de la seconde main. De plus en plus de retailers mettent en place des programmes de recyclage liés à leur programme de fidélité, comme par exemple Harrods, qui vient de lancer un pilote dans un de ses magasins Age Beauty pour recycler les produits de beauté et cosmétiques, ou encore le Cash for Trash Scheme qui a été lancé par le retailer spécialisé Currys, qui consiste à récompenser les consommateurs avec un bon d'achat lorsqu'ils recyclent leurs vieux appareils électroniques.
Merci Alexandra. Bon, Elisabeth, c'est le moment. On va prendre nos sacs à dos et direction les rues de Londres. Pour ce podcast, on a sélectionné 3 magasins emblématiques. Le premier, c'est Amazon Fresh. Alors, pourquoi Amazon Fresh ? Tout simplement, entre l'avant et l'après-pandémie, c'est probablement ce qu'il y a de plus notable, l'arrivée massive, et je dis bien massive, d'Amazon sur Londres.
Exactement, Mathieu. Je vais te citer un chiffre. 17 Amazon Fresh ouvert en 15 mois. À titre de comparaison, aux États-Unis, c'est 39 Amazon Fresh. Donc oui, ce nombre de magasins, ce nombre d'ouvertures, il est vraiment impressionnant sur la ville de Londres. Alors, sur Londres, Amazon Fresh est un magasin de 400 à 500 mètres carrés. Donc, on peut dire que c'est un magasin où on peut tout acheter. On n'est pas du tout sur un magasin de dépannage ou un convenience store.
Et dans ce magasin, il y a quoi ? Il y a une technologie, Just Walk Out, qui est la technologie finalement qu'on retrouve aussi dans les magasins américains d'Amazon.
Alors, on va vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, premièrement, la première étape, ça va être tout simplement de télécharger l'application d'Amazon sur son smartphone et d'enregistrer sa carte bancaire. Alors là, on va tout de suite démystifier l'expérience terrain, parce que si vous êtes français, il faudra mieux avoir un VPN, car si vous n'avez pas de VPN, objectivement, il sera très difficile de tester le service. Bon, cette petite aparté faite, une fois que donc, j'ai téléchargé mon application, j'ai ma carte bancaire, je vais cliquer sur Fresh Code, ce qui va générer un QR code. Et ce QR code, vous allez le scanner, ça va vous ouvrir un portique, et vous allez donc entrer dans le magasin. Et surtout, cette entrée dans le magasin, ça va déclencher quoi ? Ça va déclencher le fait que vous allez être reconnu comme un avatar.
Un avatar anonyme ?
Oui, hein, tout à fait. Donc tout de suite, levons les angoisses sur la vie privée. En fait, il n'y a aucune identification sur si je suis un homme, une femme, ce que je peux porter, etc. Je vais être juste, en fait, une silhouette qui va se déplacer dans le point de vente. Et cette silhouette, en fait, elle est suivie grâce à des très, très nombreuses caméras situées au plafond du magasin. Et donc, ces caméras, elles ont pour objectif de reconnaître les produits que vous prenez, une bouteille d'eau, du chocolat, un make-up, mais aussi, ce qui est aussi très impressionnant, ça va jusqu'à la reconnaissance des fruits et des légumes. Donc, Mathieu, hein, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais pris une mandarine, toi, une banane. Et en effet, ces caméras, elles détectent bien, effectivement, qu'on a pris une mandarine et une banane. On a aussi, en fait, des cafés qu'on peut emporter. Et comment on va faire, en fait, pour reconnaître le café que l'on va emporter? Je ne sais pas si Alexandra, tu as une petite idée sur ce que va regarder.
Oui, la taille du gobelet.
Oui, exactement. Donc, en effet, hein, c'est bien cette taille du gobelet qui va permettre en fait de savoir quel prix je vais associer à mon panier.
Alors, on voit qu'avec Amazon Fresh, il y a des caméras partout qui permettent effectivement cette technologie de Just Walk Out. Les caméras ne fonctionnent pas toutes seules quand même, elles sont toutes reliées à des balances situées sur les étagères. Et donc, c'est une double combinaison de la caméra me voit prendre un produit, mais la balance détecte effectivement que j'ai enlevé le produit grâce au changement de poids. Et c'est cette combinaison des deux technologies qui va permettre d'avoir des taux d'erreur très faibles. Amazon annonce des taux d'erreur aux alentours de 99,1-2%. Donc il n'y a pas finalement de souci. Si vous vous trompez, eh ben, il vous suffit de reposer. La balance va détecter un changement de poids. La caméra va voir que vous avez reposé le produit. Et automatiquement, le produit va sortir de votre panier.
Alors, on continue dans le parcours client. Donc, une fois que j'ai terminé mes courses, je vais franchir le portique sortie. Et donc, en fait, cette sortie elle va déclencher, bien évidemment, l'envoi de ma facture sur mon compte Bell. Donc, pour être objectif, la première fois qu'on a testé, ça a été assez long, puisqu'on a reçu notre facture à peu près à 15 minutes d'être sortie du magasin. En général, on devrait être normalement autour de 2 à 3 minutes pour la réception. Néanmoins, on reste objectivement sur un parcours très efficace, très simple, très waouh quand vous le testez vraiment pour la première fois. Pour autant, on suit quand même l'actualité et Amazon a annoncé qu'il souhaitait ralentir un peu le rythme d'ouverture à Londres, mais aussi plus globalement aux États-Unis.
Oui, effectivement, ça a été annoncé par le remplaçant de Jeff Bezos il y a très peu de temps, en ce début d'année 2023. On va voir comment ça va se passer et surtout quel est le plan d'Amazon. On peut imaginer qu'il y a deux possibilités pour Amazon. La première, c'est vraiment de vouloir continuer à devenir un commerçant alimentaire. Ou alors, et c'est peut-être plus probable, vouloir démontrer que sa technologie fonctionne pour derrière la commercialiser exactement quelque part à ce qu'ils ont fait sur le cloud. On sait aujourd'hui qu'il y a des rapprochements entre Amazon et Sainsbury qui va commencer à utiliser cette technologie du Just Walk Out.
Oui Mathieu, hein, tu parles de vendre la technologie à d'autres distributeurs. Il y a un acteur, bien sûr, anglais qui s'appelle Tesco, qui ne pouvait pas rester indifférent à l'arrivée d'Amazon. Et lui a fait le choix de s'appuyer non pas sur la technologie d'Amazon, mais sur une technologie d'une start-up israélienne, Trigo, pour proposer en fait cette même expérience de magasin autonome aux consommateurs. Alors, sur l'artère passante de High Holborn, au cœur de la City, à 200 mètres d'un Amazon Fresh, vous avez juste en face un Tesco Express, qui est en fait le concept Get Go de Tesco.
Et la promesse, elle est très simple, puisque tout est inscrit sur la vitrine. No scanning, no checkout, no queue. On est clairement dans un parcours 100% autonome chez Tesco. avec exactement les mêmes étapes que celles qu'on a présentées chez Amazon Fresh. Une identification après téléchargement de l'application grâce à un QR code à l'entrée du point de vente. Je fais mes courses normalement comme je les ferais dans n'importe quel magasin. Je sors du magasin sans passer en caisse et je vais automatiquement recevoir une, cinq minutes après ma sortie du magasin, le reçu de mes courses. Alors, chez Tesco, là, à Londres, on est sur un magasin qui est plus petit. On est aux alentours de 100 mètres carrés. C'est plus petit que les Amazon Fresh londoniens. Et finalement, on se rapproche d'un format qui était celui historiquement des Amazon Go développés aux États-Unis pré-pandémie.
Oui, il est important de rappeler en effet qu'au tout départ, les magasins autonomes, c'était des formats test, plutôt sur des petites surfaces, et que progressivement, avec les avancées de la reconnaissance d'image et de l'intelligence artificielle, on a pu arriver à des magasins de plus en plus importants en termes de superficie. Donc on mentionnait tout à l'heure 400-500 mètres carrés, mais aux États-Unis, les derniers Whole Foods à Los Angeles et à Boston, équipés de cette même technologie d'Amazon, ils font quand même près de 2000 mètres carrés. Donc on est vraiment loin de la petite supérette de dépannage telle qu'on a pu le connaître il y a quelques années.
Ouais, mais à l'inverse, il reste quand même un problème de fond. C'est que si vous ne pouvez pas télécharger l'application et avoir votre QR code d'authentification, vous ne pouvez pas faire vos courses.
Ah oui, alors c'est vrai que ça vous fait un peu bizarre parce qu'on a vraiment vu des gens qui font demi-tour parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le magasin, parce qu'ils n'ont pas téléchargé l'application de Amazon ou de Tesco et qu'ils n'ont pas envie de prendre le temps de la télécharger et de faire le processus d'enregistrement. Donc c'est vrai que ça fait une barrière à l'entrée qui est pour la première fois assez surprenante.
Ouais, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour le coup, les enseignes elles sont en train de bouger, Tesco les premiers, grâce à son partenariat avec Trigo. L'idée, c'est tout simplement de développer non pas des magasins 100% autonomes, mais des magasins hybrides qui sont finalement accessibles à tout le monde.
Du coup, dans ces magasins hybrides, le parcours client peut être choisi par le consommateur. Donc soit il va payer classiquement en caisse, soit il va décider de payer via les self-checkout. Et là, je rappelle que historiquement, Londres, c'est la ville où le self-checkout est le plus développé. Et puis, le troisième parcours, c'est bien sûr la possibilité de scanner ce fameux QR code à l'entrée pour éviter le passage en caisse. Et ces formats hybrides, en fait, on va les retrouver un peu partout en Europe, notamment en Allemagne, avec Rivé, qui propose là aussi des parcours hybrides. Et c'est vraiment cette nouveauté de donner accès, de donner aux consommateurs la possibilité de choisir son parcours d'achat.
Ouais, et ce qui est intéressant effectivement dans cette évolution de ces concepts de magasins autonomes, c'est qu'ils ont commencé avec une technologie qui était waouh et qui bluffait tout le monde, et finalement on rentrait dans le magasin pour vivre cette expérience technologique. Mais ça reste quand même des supermarchés ou des supérettes, donc on y va pour faire ses courses. Et c'est là où effectivement les magasins hybrides ils sont ultra pertinents, puisque en fonction de mes contraintes de consommateur, je vais choisir à l'instant T la solution qui est la plus adaptée, aller voir la caissière, aller en self-checkout, ou sortir directement tout seul du magasin via le parcours autonome. Alors finalement, ces magasins autonomes, ils s'inscrivent quand même dans une tendance du consommateur, dont on a parlé d'ailleurs, Elisabeth, lors de la dernière édition de notre conférence échangeur Innovate Service Centric. C'est cet homo convenience, cet acheteur qui finalement cherche quotidiennement à se simplifier la vie, à gagner du temps, à gagner en praticité. Et à Londres, pour le coup, il y a une nouvelle forme de commerce ou un nouveau magasin qui vient naître le jour et qui représente exactement cette recherche de praticité d'homo convenience, c'est Deliveroo Hop.
Et oui, donc c'est le deuxième concept qu'on a visité, donc Deliveroo Hop. Là aussi, on est en plein cœur de Londres, on est sur Oxford Street, donc grande artère de passage. Et donc, Deliveroo a habillé son entrepôt de préparation de commandes d'un espace ouvert aux consommateurs qui peuvent donc désormais entrer dans un tout petit espace et commander sur trois bornes, un peu à la McDonald's, pour faire une analogie avec ce qu'on connaît en France. Et donc, du coup, une fois que j'ai commandé, mes courses vont être préparées dans l'entrepôt qui est juste derrière. Donc moi, en tant que consommateur, je vois les préparateurs prendre les produits dans les rayons, donc tout est rendu bien évidemment transparent, et en moins de 3 minutes, je repars avec mes produits dans mon sac. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette idée de mettre en place en fait un espèce de petit magasin, elle est reprise notamment par les acteurs du quick commerce qui, vous le savez, sont menacés d'expulsion, notamment d'un point de vue réglementaire, dans les centres urbains. Et donc proposer un point de commande en magasin qui leur permettrait d'échapper à la qualification d'entrepôt, et donc de rester dans les centres-villes est un bon moyen en définitive de s'imposer.
Voilà, alors pour l'instant, en Grande-Bretagne, il n'y a absolument pas d'obligation ni de menace qui semble peser sur ce quick commerce, d'où finalement l'intérêt que peut représenter la démarche de Deliveroo. Concrètement, Deliveroo, à un moment, a besoin de produits et en fait, ils se sont associés dans le cadre de ce magasin à l'enseigne Morrison. Et ils ont aujourd'hui une offre qui correspond à peu près à 1700 produits. Le point de vente, lui, il est ouvert sur une période très large, hein, entre 8h et 23h. Et un peu comme les magasins autonomes de Tesco, finalement, je propose un parcours hybride à mes consommateurs londoniens. Le classique, et ça reste la grande majorité des parcours, ça reste de commander ses courses alimentaires depuis l'application Deliveroo et de se faire livrer par les livreurs Deliveroo. D'ailleurs, on les voit passer hein, régulièrement par l'arrière du magasin, récupérer les commandes pour après les amener au domicile des consommateurs. La deuxième possibilité, c'est de travailler sur un parcours de click and collect, puisque le magasin est ouvert sur la rue, je peux rentrer et récupérer moi-même mes courses, si j'habite évidemment à proximité. On retrouve finalement une logique de drive piéton, telle qu'on peut la connaître par exemple en France. Et le troisième, c'est sur des achats vraiment dans ma déambulation dans la ville. J'ai une envie d'une bouteille d'eau, une envie de gâteau. Je vais pouvoir rentrer dans le magasin et commander directement. Il y a trois bornes qui sont préinstallées et je vais pouvoir effectivement commander depuis ces bornes. Et il me suffira d'attendre sur les délais que tu nous annonçais, Elisabeth, hein, ça va être très rapide, pour récupérer mon produit.
Alors bon, on n'a pas l'image, mais en fait, vraiment, si vous allez voir ce concept, ce qui peut paraître surprenant, c'est que ça donne un vrai nouveau format de magasin alimentaire. On a une devanture, on voit la marque Deliveroo, Morrison, quelque part, est un peu écrasé par l'autre marque. Et en définitive, du point de vue consommateur, ça impose aussi Deliveroo comme un nouvel acteur de la distribution alimentaire, puisqu'en définitive, ces magasins lui donnent pignon sur rue.
Alors, on le voit, hein, les trois magasins dont on a parlé, hein, Amazon Fresh, GetGo de Tesco et Deliveroo Up, ils s'inscrivent très clairement dans cette évolution d'un consommateur devenu homo convenience. Mais pour autant, il ne faut pas oublier que le commerce, et notamment le commerce physique, il est aussi basé sur une notion de plaisir, qui est finalement une notion de shopping, cette arrivée du consommateur. Et à Londres, pour le coup, il y a des magasins qui travaillent très clairement cette logique du shopping. Et d'ailleurs, c'est une notion qui préexistait aussi quelque part dans les marketplaces. Finalement, une marketplace aujourd'hui sur Internet, c'est quoi ? C'est prendre un espace dans lequel des gens vont mettre leurs produits et vont bénéficier de l'audience du site Internet. Et finalement, les magasins et les derniers concepts les plus intéressants à Londres, c'est finalement des magasins qui deviennent des marketplaces. C'est notamment le cas d'une enseigne qui s'appelle C2Live. Alors, C2Live a été reconnu d'ailleurs le magasin le plus innovant de l'année 2022 au Royaume-Uni. Il est situé aujourd'hui dans le centre commercial Westfield, en plein cœur de Londres, qui est le plus grand centre commercial d'Europe. Et c'est un magasin qui fait 7500 mètres carrés. Alors, Elisabeth, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe chez C2Live ?
Oui, bien sûr. Alors, l'idée est très simple. Hein, sur ces 7500 mètres carrés, ils sont organisés par espace. Donc, par exemple, dès que tu rentres, tu as un premier espace extérieur dans lequel tu vas trouver des vélos ou même une Maserati qui est exposée. Tu continues à entrer dans le point de vente, tu vas trouver un espace dédié, cette fois-ci, aux activités indoor, dans lequel tu vas pouvoir tester des rameurs ou plein d'appareils pour te maintenir en forme. Troisième espace, on télétravaille tous, donc Alexandra, Mathieu, vous avez besoin chez vous d'un espace peut-être un peu plus cosy, où vous allez retrouver votre espace bureau avec une chaise, une imprimante, un casque d'isolation sonore. Et donc là aussi, dans cet espace qui symbolise, le bureau et le home office, vous allez trouver en fait tous ces appareils, tous ces ustensiles.
Et j'imagine après que ça se continue et qu'on va trouver un espace salon, une cuisine, une chambre à coucher. Et à chaque fois, toujours cette logique de produits mis en situation fonctionnelle que je vais pouvoir essayer, manipuler, tester.
Et c'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de scénariser des marques et ensuite de jouer avec.
C2Live, c'est une playhouse. C'est finalement un endroit où on n'essaie pas de vendre. On va juste montrer des produits. Finalement, ce qui est ultra intéressant, c'est que comme il n'y a pas cette notion transactionnelle dans le magasin, il y a juste cette logique de montrer les produits fonctionnels, on a face à nous une équipe qui n'est pas une équipe de vente, mais qui est une équipe avec une énergie qui est totalement communicative.
Alors, moi, je me souviens, Mathieu, si tu te souviens de John, donc John, c'est un des vendeurs de Situ Live qui nous a expliqué en fait le fonctionnement d'une chaise pendant au moins 15 bonnes minutes, avec forcément un niveau de détail hyper impressionnant. Si tu vas dans le salon, l'explication, elle va aller du canapé à la maison autonome. Et objectivement, tu as d'abord une première phase où on t'explique tout, donc c'est un peu comme un spectacle son et lumière. Et puis bien évidemment, tu seras amené à, là aussi, tester par toi-même tous les équipements. Dans l'espace cuisine, typiquement pareil, tu as la marque Bosch qui a mis en place des machines à laver qui sont donc fonctionnelles. Et donc là aussi, si tu as envie, tu peux lancer ta lessive pour de vrai. Et donc l'objectif, c'est à chaque fois, je suis invitée à tester moi-même les produits pour me faire mon opinion. Donc en gros, une fois que tu rentres dans le magasin, tu peux y rester des heures. Alors Alexandra, tu étais avec nous justement pour tester ce magasin, visiter ce point de vente. Est-ce que tu peux nous partager peut-être du coup la fin du parcours client ?
Oui, tout à fait. Alors, si je suis intéressée par un des articles, il me suffit juste de scanner son QR code. J'arrive ensuite sur le site de Situ Live et je peux créer ma wishlist. Et si plus tard je souhaite acheter le produit, il y a un bouton qui s'appelle Shop It qui va me permettre d'aller directement sur le site de la marque concernée afin de passer directement à l'achat.
Alors, ce qui est intéressant chez Situ Live, finalement, c'est le business économique. Il y a trois formules d'abonnement en fait. Et en fonction des formules d'abonnement auxquelles vont souscrire les marques, elles vont avoir finalement une exposition qui va varier d'une présence sur une étagère jusqu'à des produits directement fonctionnels dans la cuisine. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que le business model, c'est bien un business model basé sur la curation. Sur ce principe, tout simplement, je suis une marque, je veux reprendre une relation directe avec un consommateur, je veux faire découvrir mes innovations au consommateur, je vais louer un emplacement physique chez Situ Live, et derrière, je vais pouvoir effectivement driver du flux sur mes sites internet pour commercialiser. Et côté Situ Live, tout simplement, c'est ces formules d'abonnement qui vont générer un chiffre d'affaires régulier et permanent qui va pouvoir être réutilisé pour animer le magasin.
Alors, on va aussi surveiller avec Mathieu l'ouverture, donc cette année, en 2023, d'un autre magasin Situ Live, axé cette fois-ci sur l'expérience de mode de vie durable. Donc l'idée sera de proposer des espaces scénarisés autour de la réduction de l'empreinte carbone, les véhicules électriques, les technologies propres. Alors personnellement, j'ai assez hâte d'aller le découvrir et de tester tout ça.
Ouais, et ben on pourra en parler dans un prochain podcast, Elisabeth. Là maintenant, il est temps de conclure finalement ce tour des magasins londoniens. Alexandra, est-ce que tu as un petit mot de conclusion pour nous ?
Alors oui, pour conclure, je trouve que les attentes sont élevées au Royaume-Uni. Il y a un vrai appétit croissant des consommateurs pour la technologie en magasin, une technologie qui vise à améliorer l'expérience client avec un besoin de mixer l'offline et le online suite à la crise sanitaire. Et c'est pourquoi les retailers sont constamment à la recherche de solutions innovantes, des solutions qui leur permettront d'être plus efficaces, de faire des économies et de retenir leurs clients.
Oui, et puis on l'a dit, Londres, c'est un endroit où le retail a énormément changé ces 5 dernières années et où finalement les concepts développés actuellement, ils entrent bien finalement en résonance avec cette idée d'un acheteur homo convenience en recherche de simplification, de praticité et ce consommateur homo shopping qui lui va rechercher du plaisir dans son quotidien, exactement comme c'est le cas chez Situ Live.
Exactement. Alors sur ce mot de la fin, il ne nous reste plus qu'à remercier encore une fois Alexandra d'avoir joué le jeu de l'expert et nous présenter toutes ces tendances sur le Royaume-Uni. Et puis Mathieu, on se donne rendez-vous pour le prochain podcast Situ I Know.
Eh bien, je vous propose pour le prochain podcast d'aller à Berlin. Au revoir à tous.
Au revoir. Au revoir Alexandra.
Au revoir.